le fantasme des voyages. Je pense que l'avoir vu, c'est voyageur sans bagage. C'est quelqu'un qui serait autosuffisant. C'est-à-dire que voyager, ça veut dire simplement soit marcher, soit regarder une carte, soit aller d'un café à la gare, soit chercher un hôtel. Des fois, visiter 3-4 trucs, et encore, on peut perdre dans la ville. Donc, c'est le voyageur sans bagage. C'est citoyen du monde, parce que tiens, c'est marrant. Citoyen du monde, c'est un truc qui a disparu. C'était des gens qui brûlaient leur passeport, tout ça. Années 50, aujourd'hui totalement oublié, mais ça avait un impact affectif. Enfin, ça passait pas inaperçu dans l'opinion publique. Et dans l'après-guerre des années 50 et en pleine guerre froide, c'était une idée plutôt sympathique. Le citoyen du monde, c'est quelqu'un qui est chez lui partout, dès qu'il n'est pas chez lui. Pour les gens normaux, quand ils sont hors de chez eux, ils commencent à avoir peur ou à être inquiets. Moi, c'est le contraire. C'est-à-dire que je pouvais être angoissé ou inquiet ou jamais complètement rassuré là où j'appartiens, c'est-à-dire Paris, et auréolé ou frappé d'une sorte de protection divine ou je sais pas quoi, dès que j'étais ailleurs. Sur l'idée, il ne peut rien m'arriver, je suis clandestin, je n'existe presque pas et je n'ai rien.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
En 1992, quelques mois avant sa mort, lorsqu'il faisait ainsi l'éloge du voyageur flâneur, embarquant sans bagages et sans a priori pour s'en aller humer l'oxygène des autres, Serge Danet nous parlait de temps déjà lointain. Car plus les distances raccourcissaient au siècle dernier, plus le monde se refermait. Et aujourd'hui que les passeports biométriques, les portiques de sécurité, les visas nous permettent à peine de passer des frontières de plus en plus barricadées, s'en aller voir ailleurs est devenu un projet si angoissant, si épuisant, que la tentation du renoncement nous guette. Et puis, les écrans sont là, tentateurs, omniprésents, qui nous apportent l'exotisme dans notre salon et nous proposent un monde virtuel, fantasmé, relooké, tellement plus fascinant et coloré que notre morne réalité. Heureusement, pour le voyageur sans bagages, en manque de découvertes, il restera toujours les livres pour ouvrir grand les fenêtres sur cet ailleurs auquel il aspire. Les livres donc, c'est l'occasion ou jamais de le proclamer, de le répéter en ce dimanche où Radio France et toutes ses antennes le mettent à l'honneur une fois encore. Occasion pour l'humeur vagabonde de croiser les expériences, les regards et les récits de deux auteurs présents à cette fête du livre 2016. Françoise Huguier d'abord, grande voyageuse et grande photographe, qui publie chez Actes Sud un livre passionnant consacré à Séoul, Séoul virtuel, où elle a longuement séjourné en 2014, 30 ans après son premier séjour sous la dictature militaire. Elle nous y décrit une capitale shootée aux écrans, à la publicité, à la consommation, où la chirurgie esthétique transforme hommes et femmes en clones peroxydés, tout droit sortis de manga japonais. Eliza Georgieva, elle, publie son premier roman aux éditions Verticales, Les cosmonautes ne font que passer, dans lequel elle raconte avec humour une adolescence en Bulgarie au moment de la fin du communisme et de la naissance d'une société copiée sur le pire du capitalisme. Elles sont toutes les deux aujourd'hui les invitées de l'humeur vagabonde.
Knowing that your door is always open and your path free to walk, that makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. It's knowing I'm not shackled by forgotten words or bones, some ink stains that have dried up on some night. That keeps you on the back roads by the rivers of my memory, keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on the columns now that binds me. or something that somebody said, 'cause I thought we'd fit together walking. It's knowing that your world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memory, every smile and every gentle on my mind. And though the wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us, some other woman crying to her mother 'cause she turned and I was gone, I still run in silence, tears of joy might stain my face and the summer sun might burn me till I'm blind. I'll be not to where I cannot see you walking on the back roads by the rivers flowing gently on my mind. I dip my cup of soup back from the gurgling, crackling cardoon in some train yard. My beard a roughing coal pile and a dirty head pulled low across my face. Through cupped hands and around tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memory, every smile and every gentle on my mind. That you're waving from the back roads by the rivers of my memory, every smile and every gentle. You're waving from the back roads and by the rivers of my memory, for hours you're just gentle on my mind.
Bonjour Françoise Huguier.
Bonjour.
Bonjour Elitza Georgieva.
Bonjour.
Apparemment, deux livres qui nous parlent de deux bouts du monde éloignés, de deux sociétés très différentes, et en même temps j'ai trouvé dans vos deux livres beaucoup de points communs, cette sensation que et dans la Bulgarie communiste et juste au moment de la chute du mur, et dans la Corée d'aujourd'hui si moderne, il y a une impossibilité de ne pas se conformer aux diktats. Alors aux diktats politiques, aux diktats consuméristes. Françoise Huguier, vous avez visité cette Corée à deux moments très différents. La dictature militaire en 82 et aujourd'hui la démocratie, même si elle est contestée dans la rue en ce moment. Mais c'est une société qui est passée finalement d'une objurgation politique, d'un contrôle politique à un contrôle par l'image, par la consommation, par la publicité et par la chirurgie esthétique. C'est assez fascinant ce que vous décrivez.
Oui, mais en même temps, c'est un pouvoir sur les gens. Hein. Et la Corée, quand vous regardez la situation de la Corée géographiquement, là on parle de la Corée du Sud, mais dans l'histoire de la Corée il a fallu tout le temps que la Corée prouve qu'elle existait. C'est une petite péninsule, donc il y a eu les Japonais, 35 ans de colonisation, donc c'est très important pour eux de montrer qu'ils sont les plus forts. Donc effectivement, moi je suis venu en 82 où il y avait encore la dictature, il y avait le couvre-feu, et j'ai vu l'évolution là. Effectivement, l'évolution, il fallait montrer au monde que techniquement, les recherches et tout, c'est les plus forts. C'était ça qui est important. C'est un pays très nationaliste. C'était important. Alors, c'est sur les écrans. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est le métro aussi. Le métro est très sophistiqué. Et il y a même un dernier métro, mais je me demande si on va pas voir ça dans le grand métro autour de Paris. C'est-à-dire que sur les quais, il n'y a plus du tout de alors évidemment, il n'y a pas d'affiches, hein, c'est des écrans. Il n'y aura plus d'écrans. Et tout d'un coup, quand le train est parti, le wagon est parti, tout d'un coup, on a vu la pub. Et en fait, la pub est intégrée dans les vitres du métro. Oui. Donc, ça me ravit, parce que ça va très loin. Bon, on peut discuter sur le consumérisme et tout ça, mais ça va très loin. Et donc, les Coréens, c'était très important pour eux d'aller très loin. Ce problème, c'est que ça a été très très vite. Donc il y a quelques soucis en ce moment, parce que moi qui étais dans les familles sont très endettées. Il n'y a pas de retraite, c'est le système américain. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de sécurité sociale. Les études coûtent très très cher. Donc les familles sont très très angoissées, parce que vous imaginez si le mari, enfin surtout le mari, perd son travail, à ce moment-là, c'est plus de voiture, plus d'appartement, plus la possibilité de payer les études. Et c'est... Au début, j'étais quand même un peu frappée. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Il y a des écrans partout, dans le métro, tout ça, la chirurgie esthétique. Et petit à petit, en plusieurs voyages, finalement, je me suis attachée à cette ville. Je me suis attachée parce que petit à petit, quand on rentre, ce que disait Serge Danet, moi, Serge, il m'a appris, puisque j'ai beaucoup voyagé avec lui, il m'a appris justement à marcher. Les Séouliens ne marchent pas. Ils vont d'un endroit à un autre, ils ne marchent pas. Moi, avec cette expérience avec Serge Danet, donc j'ai marché jour et nuit, faire des photos, bien sûr, jour et nuit, pour me rendre compte ce que c'était que cette ville. Parce que quand... si on ne fait que les avenues principales, bon, là, c'est des immeubles en verre de 50 étages, et bon, ça ressemble un peu à beaucoup de villes d'Asie maintenant. Mais dès qu'on va derrière, ça change.
Oui, mais d'ailleurs, dans vos photos, on se rend bien compte que cette vieille Corée, cette vieille âme, cette vieille culture, quand même, elle est quasiment cachée au fond des ruelles ou en dehors de la capitale, mais que c'est une culture... un passé qui n'est pas tellement valorisé, qui est même complètement écrasé.
Qui est écrasé, mais la seule chose qui perdure, c'est le confucianisme et le chamanisme. D'ailleurs, en ce moment, on le voit avec ce qui se passe à Séoul en ce moment. 1 million de manifestants dans la rue hier. Et ce mélange entre le confucianisme et... Donc, le confucianisme, il faut obéir, hein, c'est principal. Alors, effectivement, ça, c'est de tradition. C'est à mon avis une des choses qu'ils ont gardées d'avant.
Eliza Georgieva, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez regardé le livre de Françoise Huguier, comme Françoise Huguier a lu votre livre « Les cosmonautes de Fong Passé ». Et toutes les deux, vous avez été frappées par un certain nombre de convergences dans ces sociétés séparées par le temps, séparées par la géographie. Est-ce que c'est aussi, comme le dit Françoise Huguier, cette nécessité d'obéir?
Moi, je pense que nous, on a de la même manière une fascination, évidemment. Enfin, maintenant, c'est peut-être plus dans la période du livre, c'est-à-dire dans les années 90, il y avait une fascination vers l'Occident qui était assez forte, mais que nous, on pouvait pas vraiment atteindre. Donc, ce rêve américain occidental de consommation, il était un peu en hors champ, où il était à la télé, sauf qu'on n'avait pas des écrans partout. Et on ne pouvait pas vraiment consommer. Dans mon livre, par exemple, je raconte justement l'arrivée du premier McDo en Bulgarie. Oui, c'est un événement, tout le monde est là, on sèche les cours pour y aller. Voilà. Mais en même temps, on ne peut pas entrer parce que ça coûte tellement cher que c'est comme un restaurant américain qu'en nous, on ne peut pas se permettre. Et donc voilà, on consomme, mais de manière un peu décalée. Donc c'est vrai que je pense que c'est quand même assez différent. Moi j'ai adoré le livre de Françoise Huguier et j'étais très frappée par ce mouvement qu'il opère, puisque c'est vrai qu'au début on partage cette même fascination envers ces gens. Enfin, c'est curieux, on a l'impression que leur quotidien est exceptionnel, qu'ils sont tout le temps en représentation, et en même temps très vite ça déconstruit justement ce rêve, puisque en fait ça devient presque la parodie de, c'est une sorte de post-rêve occidental qui est complètement désolant aussi. Et je pense que nous, on ne peut pas comparer ça. Enfin, c'est-à-dire que la Bulgarie, c'est très, très différent. La Bulgarie est un pays pauvre qui ne peut pas se permettre des écrans partout. On a le métro depuis les années 2000. Donc voilà, c'est très récent tout ça. Mais je pense qu'on a presque... C'est presque l'inverse dans le sens où il y avait tellement de vide, justement. Il n'y avait même pas d'électricité dans les années 90. Enfin, pas tout le temps, mais il y avait des coupures d'électricité très récurrentes. Et donc, on se consolait beaucoup en se disant, oui, mais au moins, maintenant, dans ce vide et dans ce noir, ben, on peut prendre le temps de s'asseoir et de parler et de vivre vraiment entre nous, en famille, ou voilà, de vivre ces moments-là du quotidien différemment. Et c'est quelque chose que je me suis beaucoup inspirée de ce décor, de cette esthétique un peu less is more, malgré nous. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, donc il fallait imaginer. Et dans mon livre, j'ai un peu profité, en fait, de cette, endroit-là, qui est aussi l'endroit de l'enfance, où un enfant, bah, forcément, va profiter de chaque vide pour projeter ses propres fantaisies et justement rendre le quotidien un peu plus différent.
Alors, dans votre livre, Elitsa Georgieva, il y a cette description de la Bulgarie communiste. Juste avant la chute du mur, vous aviez 7 ans, vous rentrez à l'école. Et comme dans la Corée confucianiste, il y a un certain nombre de choses auxquelles on doit obéir. On va écouter la lecture d'une page de votre livre. C'est le fameux manuel des pionniers que vous adoriez lire, petite fille. C'est la voix de Cécile Gaillol, qui est assise pas loin, qui nous la raconte.
Chez toi, tu te plonges dans la lecture du manuel pour les jeunes septembriens, en te demandant si on peut encore devenir septembrien, en plein mois d'octobre. Ta mère tire, pensive, sur sa 20e cigarette de la soirée, sans bien saisir cette démonstration inopinée de bonne conduite. Après hésitation, elle s'assoit à tes côtés. Tu la regardes te prendre le livre des mains et le feuilleter avec une expression de dégoût, comme quand elle croque dans un gâteau trop gras ou à la vision d'un œillet rouge. Elle s'arrête sur le portrait du secrétaire général du comité central du Parti communiste bulgare et président du Conseil de l'État de la République populaire de Bulgarie, le camarade Todor Jivkov, que tu avoues trouver assez vilain, avec son crâne chauve, ses yeux gris et saillants, et son nez qui lui couvre la moitié du visage. « Il ne faut pas dire des mots pareils !» crie ta mère. Et soudain paniquée, pâle, choquée, bruyante, haletante, elle court vers la salle de bain, où elle laisse longtemps l'eau couler dans le lavabo, dans la baignoire et dans le bidet simultanément. Rituel mystique que tu aimerais un jour pouvoir déchiffrer. Puis elle revient, en laissant l'eau couler, et tu as l'impression d'être transportée au pied des chutes du Niagara, où ton oncle a émigré. Fait qu'il ne faut jamais mentionner à haute voix non plus. Tu ne soupçonnais pas ta mère de porter tant d'affection à Todor Jivkov. Et tu la rassures immédiatement. Ce n'est qu'une première impression à cause de ses lunettes trop grosses et de son expression un peu ahurie. Nous voilà devenus dissidents, dit ta mère. Et elle te met la main sur la bouche.
Françoise Huguier, vous qui avez beaucoup voyagé et photographié en Union soviétique et dans les démocraties ex-populaire, j'imagine que ces pages consacrées à l'enfance d'Elitsa Georgieva en Bulgarie, ça évoque pour vous énormément de souvenirs aussi.
Et puis dans son livre, l'inspiration de Yuri Gagarin, alors ça j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, parce que c'est vrai que Yuri Gagarin, moi... Une petite anecdote, c'est-à-dire que j'ai fait des séries de mode, et donc il y a eu à un moment l'arrivée des mannequins russes. Et pour le casting, on le faisait à la maison, et j'avais un grand portrait de Yuri Gagarin que j'avais acheté à Moscou, et elles étaient parfaitement étonnées, et je disais, mais c'est mon fiancé. C'est une histoire qui m'a toujours fascinée. C'est pour ça que le livre d'Elitsa, pour moi, m'a fasciné aussi, parce que Ce rapport qu'elle ait choisi Yuri Gagarin pour raconter sa petite enfance, sa rencontre avec son ami Kotanza, que son chien Joki aussi, que tout soit en rapport par rapport à l'épopée Yuri Gagarin, pour moi ça m'a enchanté. Et alors il y a une autre chose dans le livre aussi, c'est que c'est Joki est un chien indestructible. Il te prouve cela en survivant contre toute attente après que. Et j'aime beaucoup les A, B, C. Ça, c'est formidable dans le livre, parce que je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un livre. C'est formidable. Pendant tout le livre, c'est ça.
C'est toutes les possibilités du roman qui s'ouvre. Oui.
C'est toutes les possibilités. Et ça, c'est formidable.
Elitsa Georgieva, ce livre, il y a une bascule au milieu. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la bascule de l'âge. On sait très bien à quel point passer de l'enfance à l'adolescence est un bouleversement terrible chez une fille ou chez un garçon. Et c'est doublé de la chute du mur, c'est-à-dire de l'écroulement aussi d'un monde qui, pour une enfant, est assez satisfaisant au fond, parce que chaque chose est à sa place, tout a un sens, et tout le monde fait la même chose. Et puis on passe à l'adolescence où le corps ne ressemble plus à ce qu'on a l'habitude de voir, où les parents commencent à dire des choses étranges et où tout le monde extérieur s'écroule. Ça a été en 89 une vraie révolution.
J'avais assez envie de parler de cette rupture qu'il y a eu dans notre histoire, où c'est vrai que c'est un moment exceptionnel. Je pense que ça, Ça n'est pas arrivé ici depuis longtemps. C'est-à-dire que, effectivement, tout un monde va disparaître. Un monde qui était un peu aussi artificiel par sa construction idéologique et politique, mais aussi dans le paysage. C'est-à-dire que même un enfant pourra remarquer que les rues changent. Son école ne s'appelle plus Yuri Gagarin parce que Yuri Gagarin est soviétique et donc il est de moins en moins héroïque soudainement, alors qu'il n'y a pas une explication concrète et logique pour cet enfant. Et c'est vrai que d'ailleurs les enfants, je pense que d'ailleurs l'extrait que vous avez choisi raconte ça, c'est-à-dire qu'on ne disait pas justement toute la critique qu'on pouvait porter à la propagande, elle n'était évidemment pas partagée avec les enfants parce que les enfants pouvaient naïvement répéter ça en public et donc causer des soucis à la famille. Et c'est vrai que on était un petit peu protégé, enfin entre guillemets, enfin, c'est-à-dire que et en même temps, bah du coup, on recevait la propagande au premier degré, c'est-à-dire que quand on voit le sapin de Yuri Gagarin et la mosaïque et toutes ces aventures, en tant qu'enfant, on a assez envie de se projeter et on ne peut pas savoir que c'est une figure qui est en fait utilisée pour la propagande aussi, entre autres, même si c'est un héros, même pour ici et même si, enfin voilà, c'est quand même le premier homme dans l'espace, donc c'est une figure ambiguë. Et voilà, après, c'est sûr que pour un enfant qui va changer dans ce contexte-là où la société en soi est en train de grandir aussi, en quelque sorte, c'est-à-dire de s'émanciper d'un système paternaliste, et d'un coup, et de devoir changer, de trouver de nouvelles valeurs, de s'ouvrir au monde d'un coup. Mais c'était, je pense que dans les années 90, c'était une vraie période d'ébullition où on se posait toutes les questions. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que la désobéissance civile, etc. Donc, quel modèle on va utiliser? Et d'ailleurs, qui sommes-nous? C'était un grand moment où on va se dire, mais en fait, au fond, qui sommes-nous, les Bulgares? Et voilà, donc je voulais parler un petit peu de ce double mouvement, à la fois la société qui se transforme, et puis, comme vous dites, cet enfant qui le corps se transforme, les héros ne sont plus les mêmes, donc voilà, il va changer d'idole, et essayer de s'adapter à ce nouveau monde, qui est aussi un monde stimulant, c'est-à-dire que peut-être que aussi dans un monde où tout est ordonné et trop carré, c'est peut-être plus ennu en même temps pour une adolescente. Donc je voulais aussi parler de ces moments de surprise où le quotidien devient une surprise tous les jours. Aucun jour ne ressemble à celui d'avant. Donc forcément, je pense qu'on est aussi assez éveillé quand on grandit dans cette ambiance.
Ce qui est aussi frappant, Eliza Gheorgheva, par rapport à ce que nous, occidentaux, nous avons ressenti au moment de la chute du mur, où on a eu l'impression que le monde s'ouvrait et que l'optimisme était à notre portée. En fait, dans votre livre qui raconte d'une certaine manière, même romancé, votre enfance et votre adolescence là-bas, on a l'impression que vous avez suivi le chemin inverse, c'est-à-dire que vous étiez plutôt optimiste petite fille dans une Bulgarie communiste rigide, et après la chute du mur, vous avez découvert l'angoisse, la peur et le désespoir. Quand en Occident, on croyait qu'à ce moment-là, les peuples étaient dans une sorte d'ivresse de bonheur.
Après, bien sûr, j'ai peu connu le communisme, donc je peux pas dire que moi je me suis, enfant forcément, c'était juste un décor de mon enfance en fait. Donc voilà. Je pense qu'en 90, il y a eu quand même cet élan d'espoir. Il est quand même très, très présent chez nous, même si, malheureusement, assez rapidement, au bout d'un an ou deux ans, les angoisses vont venir aussi, puisqu'on va connaître justement ce que vous dites, vivre dans une société où il n'y a pas la sécurité, où il y a la retraite, mais c'est complètement ridicule. Donc, vivre dans une société sans sécurité, de manière générale, c'est quand même assez compliqué. Donc, je pense qu'en fait, c'était assez angoissant, presque plus pour les adultes que pour nous, enfants et adolescents, qui étions protégés quand même de cette réalité. Voilà, donc c'est vrai que j'ai beaucoup réécrit ce texte et j'avais beaucoup cherché aussi la fin. Et j'ai beaucoup hésité entre quelque chose d'un peu optimiste quand même, parce que je voudrais surtout pas qu'on croie que je suis en train de délivrer un message que la démocratie que je ne serais pas optimiste par rapport à ça. Mais en même temps, quand on voit la situation aujourd'hui, je ne pouvais pas parler en 97 de système oligarchique qui s'est mis en place aujourd'hui. Mais enfin, on le sent vers la fin. Et il y a un personnage qui est le grand cousin Andrei qui va être, qui porte en lui cette transformation et ce système qui va se mettre en place, c'est-à-dire que c'est le pionnier communiste qui va devenir mafieux et puis politicien à la fin. Et c'est un peu ce qui s'est passé quand même avec beaucoup de personnes, et c'est ce système oligarchique qui s'est mis en place. Donc forcément, je ne pouvais pas en parler, mais je voulais quand même finir sur quelque chose d'un peu déceptif.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Faire tomber le verrou, la cloison, l'écrou, faire tomber la serrure, frapper un grand coup pour de bon, faire un trou, puis faire tomber le mur, puis courir, courir plus vite, quitter le site, rejoindre la sortie, franchir la limite, bâton dynamite, enfin sortir d'ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un peu plus de jour, un peu plus de ciel, revoir le paysage, monter dans la tour, en voir de plus belle, oui, avoir la vue large. Enfin voir la vue, enfin voir dessus, prendre de la hauteur. Enfin voir la vue, enfin voir l'issue, voir si elle est meilleure. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauver de là, sauver de la prison. Pourquoi pas, pourquoi non? Pourquoi pas, sauver de là, sauver de ma prison. Pourquoi pas l'évasion? Que j'y aille, aller tenter ma chance, reprendre de la taille, passer la muraille et voir la différence. Pourquoi pas?
Nous sommes sur le pont Mapo. Il y a 26 ponts à Séoul qui relient les deux rives du fleuve Han. Ce pont-ci a beaucoup fait parler de lui, car de nombreux jeunes viennent se suicider ici. Ils se déchaussent avant de se jeter à l'eau, comme s'ils rentraient à la maison, ou s'ils entraient dans un temple, comme pour un rituel. La mairie a installé un miroir et des phrases mettant en garde contre la mort, contre le suicide. En Corée, la ferveur éducative est incroyable. À cause de la compétition, les adolescents n'arrivent pas à supporter la pression et se suicide. Je veux que cette course effrénée s'arrête, que ce système compétitif s'arrête et qu'on arrive à trouver très rapidement un autre système où chaque individu puisse être heureux.
Françoise Huguier, cette archive nous a emmenés pendant un court instant sur le pont Mapo à Séoul. Vous photographiez d'ailleurs, et c'est très impressionnant, ce qui a été fait pour tenter de dissuader les innombrables candidats au suicide, souvent jeunes d'ailleurs. La Corée du Sud est le pays au monde où il y a le plus fort taux de suicide. Et d'ailleurs, il y a, et vous le racontez dans cet apprentissage de la mort que vous allez nous décrire, il y a une fréquentation de la mort qui est un peu angoissante.
Comme je vous l'ai dit, le fait que, en allant dans les familles, j'ai vu l'angoisse des gens, parce qu'effectivement, tout est fragile. Et l'éducation, effectivement, même l'entrée à l'université, il faut savoir que l'aéroport de Séoul, pendant les concours pour entrer dans les universités, s'arrête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avion qui décolle et pas d'avion qui... Oui, c'est le seul pays au monde, je le rassure.
Mais c'est quoi le but ?
Ben, le but, c'est que les étudiants passent dans des conditions optimum,
silence,
le silence et tout. Oui, ah oui. Très, très important. Donc, tout est fait, effectivement, pour que les jeunes et ceux qui passent les examens, qui les concours, puissent rentrer à l'université, parce que c'est quand même le fleuron de la société sud-coréenne.
L'échec n'est pas admis.
L'échec n'est pas admis du tout. Et alors, donc, effectivement, ce pont, moi, je m'en suis aperçu, parce qu'un jour, j'étais à pied, je traversais, puis tout d'un coup, c'était la nuit, et tout d'un coup, j'arrive sur ce pont, et je vois sur les rambardes qui s'allument comme ça. À chaque fois que j'avançais, ça s'allume, parce qu'en fait, la ville de Séoul a demandé à Samsung de mettre justement un plastique comme ça, avec des LED derrière, et des miroirs. Et les phrases, effectivement, moi, quand je les lisais, ça me disait pas grand-chose. Enfin, je me disais, ça va jamais m'empêcher de me suicider.
Mais oui, les phrases, il y a des phrases, on demande de se souvenir du bon dîner qu'on a fait la veille ou que la vie vaut la peine
et
d'être
vécue. Et puis il y a une phrase aussi, c'est allez-y, c'est le bon moment. Alors je dis non, c'est pas possible. Et en fait, les phrases ont été, la ville de Séoul a demandé à une société d'assurance vie de faire les phrases. Voilà. Donc ça vous explique un petit peu les phrases. Mais c'est comme l'apprentissage de la mort. Alors ça, c'est assez récent. Et quand je demandais à Patrick Morus, parce que lui qui a fait les textes dans mon livre, et lui ne connaissait pas ça du tout. Alors c'est assez récent. Moi, j'ai découvert ça en préparant mon voyage. Et en fait, c'est une société de pompes funèbres qui a mis ça au point. Alors je me suis dit, bon. Alors en même temps, c'est mélangé des deux. Donc c'est un business, hein, c'est quand même 50 à 60 euros. Donc pour vous décrire, vous arrivez, alors là il y avait, quand j'ai photographié, il y a 40 personnes, c'est que des jeunes, hein. Parce qu'évidemment les vieux, proches de la mort, ils n'ont pas du tout envie d'aller là. Et donc il y a 40 personnes et qui arrivent, il y a une salle de classe,
il y a 40 cercueils quand même.
Non, après.
Après ?
Après. Alors, c'est une salle de classe, alors il y a une vidéo, et il y a une personne qui explique qu'il y a tous les malheurs, mais heureusement, en Corée, il y a moins de malheurs. Mais ça peut arriver, parce qu'il peut y avoir une mère qui meurt d'un cancer. Alors, on voit la vidéo. À la seconde près, tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Ça, c'est pareil, je me disais, non, mais c'est pas possible. Et après, on leur fait la photo mortuaire, et après on leur donne le vêtement mortuaire qui est blanc et avec des grandes bandes jaunes. On leur donne un petit classeur en velours qui va servir pour faire le testament des parents. Et là, on leur dit, on va prendre l'escalier céleste. Donc on fait un étage, et là, on arrive dans une salle où il y a 40 cercueils. Bon. Et là, on leur demande de faire le testament, donc ils font le testament. Après, on leur demande de rentrer dans le cercueil. Et là, on ferme le cercueil. Alors, je rassure, il y a deux petits trous dans le cercueil. Et on les laisse un quart d'heure. Alors, moi qui faisais les photos, je me dis, alors, il y avait ceux qui ronflaient, mais pas beaucoup, ceux qui pleuraient, qui continuaient à pleurer, et ceux qui étaient claustro, mais on leur ouvre pas. Parce qu'il y a plusieurs endroits dans ces rues comme ça, il y a certains endroits où on les ferme même avec des vis. Hein. Donc, au bout d'un quart d'heure, on rouvre. Et là, c'est assez saisissant parce qu'on voit, ils sont tous défigurés par les pleurs, par la peur et tout. Donc après, ils sortent du cercueil, on ferme le cercueil, on les fait asseoir sur leur cercueil, et ça, très important. On leur dit, levez le bras et le poing et fighting for the career. Ça explique tout. Alors, moi, je me suis demandé si c'était à cause des suicides. Je pense que c'est un business. Parce que j'ai demandé aux jeunes qui étaient dans les cercueils, et notamment un couple qui m'ont dit bah nous on a des problèmes de couple et notre psychologue nous a dit de faire ça. Je suis pas sûre qu'ici ça marcherait, mais alors j'aurais bien aimé les revoir un an après pour savoir si ça a marché entre eux.
Mais c'est vrai, Françoise Huguier, on se rend compte que il y a des comportements de groupe qui sont encouragés. En fait, vous décrivez une société où la non-conformité est un péché souvent mortel. Et ça nous rapproche encore de cette Bulgarie que nous décrit Eliza Georgieva, où la non-conformité de la petite fille qui raconte est déjà mal vue à l'école. Il faut qu'elle soit dans le courant, dans la bonne conduite globale. Ce sont, en fait, vous nous racontez des histoires de deux pays où le conformisme est une vertu et où l'originalité, l'individualisme sont quasiment impossibles.
Oui, surtout que c'est un peu compliqué pour cette fille de comprendre qu'est-ce que c'est que le conformisme et en fait pourquoi on la juge. Par exemple, elle comprend l'idée de la conquête spatiale qu'elle appelle conquête spatiale. Elle veut être Yuri Gagarin, mais après, par contre, on lui explique qu'en tant que fille, c'est quand même pas tout à fait conseillé qu'elle grimpe sur des arbres, qu'elle salisse sa robe et qu'elle se comporte de cette manière-là. Donc c'est complètement contradictoire en plus. Du coup, voilà, elle est originale malgré elle. Enfin, en fait, elle est ce qu'elle est, mais c'est vrai qu'il y a des limites à ses rêves que la société détermine.
Alors, on va écouter justement la lecture d'une autre page de votre livre, toujours par Cécile Cayol et Eliza Georgieva. C'est le moment d'après la chute du mur. C'est le moment où le collège Yuri Gagarin, son héros personnel, va changer de nom et le moment où cette petite fille ne reconnaîtra plus rien dans sa société.
La Bulgarie bouge très vite à son tour. Le nouveau secrétaire général du PC, Petar Madlenov, a été élu président de la République. Le Parlement a déjà aboli l'interdiction de la propagande anti-gouvernementale.
Quelques mois plus tard, c'est officiel. Ce n'est pas juste un mur qui est tombé, c'est tout le communisme. Phrase qu'on te répète sans cesse, comme si tu en doutais. Se succèdent plusieurs changements paradoxaux, à commencer par le foulard bleu que tu as gagné avec tant de volonté l'année dernière et qu'on t'avait encouragé et même obligé à porter depuis. Ta mère l'arrache de ton cou en un mouvement agile, avec dans le regard cette lueur plantée là depuis quelque temps, et se met à le tordre, à le froisser, à le piétiner, et finit par le découper en petits morceaux et le jeter par la fenêtre. Puis on t'emmène un jour à l'école, où la camarade directrice qui a remis sa jupe de la saison printemps-été, celle parsemée de diverses fleurs des champs, annonce la nouvelle la plus improbable jamais entendue par tes oreilles. Ton école ne s'appelle plus Yuri Gagarin, car Yuri Gagarin est soviétique et donc communiste. Il est sans contestation aucune, encore et pour toujours, dans les registres de l'histoire, le premier homme envoyé dans l'espace, dit la directrice, qu'on n'appelle plus camarade, mais madame. Il a été décidé de mettre à l'honneur un nom bulgare, dit madame la directrice à l'immense jupe de la saison printemps-été, car l'amitié bulgaro-soviétique, ça commence à bien faire. L'école s'appelle désormais Vassil Zlatarov, historien ou médecin, dont tout le monde apprend brusquement l'existence. Personne ne semble gêné par cette tournure de la situation. Tu veux protester, hurler, t'arracher à l'emprise de ta mère pour scandaliser le monde le plus possible ? Mais il se fait tard, et ça suffit, te dit ta mère.
Eliza Georgieva, on va suivre les aventures de votre petite héroïne, votre double, dans Les cosmonautes ne font passer. Là aussi, comme la société s'écroule, la télévision occidentale arrive, et la télévision occidentale, à ce moment-là, c'est MTV. MTV, les clips, la musique, une musique nouvelle, et puis la rencontre avec Kurt Cobain. Et comme pour beaucoup d'adolescents à ce moment-là, cette espèce de désespoir, de nihilisme, de morbide presque, va aussi atteindre ces adolescents du post-communisme. Et c'est le cas de vos petits héros.
Oui, quand MTV arrive, c'est déjà une nouvelle conquête spatiale. Enfin, c'est complètement fantastique. D'un coup, on peut voir des images beaucoup plus colorées, où il y a une vie occidentale qu'on va enfin découvrir. Et moi, je me rappelle que ce qui me fascinait le plus, d'ailleurs, c'était les petits reportages documentaires où on voyait les adolescents américains dans leur quotidien, et ça me paraissait complètement fou. Et c'est vrai que forcément Kurt Cobain dès 91 il va être un peu une idole autant en Bulgarie qu'ici. C'est une coïncidence assez étrange parce que effectivement lui avec tout ce qu'il je pense que c'est tout simplement la personne qu'il est puis le mouvement grunge est effectivement en soi quelque chose d'un peu noir comme ça, d'un peu nihiliste, et en même temps c'est vrai que ça correspond parfaitement à l'état d'esprit des gens en 90 en Bulgarie qui ne sont pas tout à fait optimistes non plus.
Alors cette irruption de la musique justement et celle de MTV, des clips vidéo dans votre livre, Elitsa Georgieva, elle nous rapproche de l'importance de la musique dans le livre de Françoise Huguet sur Séoul. C'est cette musique très étrange qui s'appelle la K-pop, la pop coréenne. Et qui est devenu, là aussi on parle de business, mais c'est aussi le conformisme des adolescents qui veulent tous correspondre à ces jeunes artistes qui sont complètement formatés comme dans des mangas japonais au fond. C'est très coloré, mais ils ont tous la même tête, Françoise Huguet. Comment c'est possible?
Le groupe que j'ai photographié là qui s'appelle La Boom, que j'ai découvert par hasard, donc La Boom en Corée, on se souvient encore de Sophie Marceau. Et le groupe est financé par une colline de chirurgie esthétique. Donc quand on regarde les photos, moi je les ai photographiées en studio pendant une journée, elles ont le même nez, bon les yeux bien sûr, le même nez, alors très important, c'est la bouche sourire, c'est-à-dire qu'il se relève un peu. Donc elles sont toutes pareilles. Hein. Et le menton pointu, la vif-fesse. Et même dans le métro, il y a des miroirs avec des pointillés, et elles se regardent dans le miroir pour voir ce qu'il faut enlever.
Bon. Mais même très jeunes, donc, Françoise Huguet, les jeunes filles.
Mon groupe, elles ont 14 à 18 ans, et les garçons, pareil. Ils sont tous refaits, oui. Enfin, surtout dans les groupes, mais dans la rue aussi, moi, jamais étonnée. Hein. Moi, je faisais les rues comme ça, le soir de magasin, et je voyais une fille, plus loin, j'en voyais 5 mètres plus loin. Je rencontrais la même fille, je disais, c'est pas possible, elle est pas revenue en arrière. Et les garçons, pareil. C'est-à-dire qu'il y a, alors, moi, je me demande ce que vont être les enfants, parce que tout d'un coup, ils sont tous en train de se ressembler. Alors, c'est quoi? C'est ressembler à l'Occident? C'est pas tout à fait ça. C'est les dessins animés japonais. C'est la manga. C'est-à-dire qu'on vit dans la manga. Et ces groupes de K-pop, il y a 3 majors. Et qui ont été dans les années 70, il y avait un groupe où ils étaient 3 musiciens qui faisaient un peu de la pop. Et là, ils ont monté leur business, donc c'est des concurrents. Et c'est énorme. Par exemple, près de leur bureau, l'immeuble de leur bureau, il y a la queue nuit et jour pour voir les stars. Et il y a un musée à Séoul de la K-pop. C'est très très important et c'est très malin parce que quand ils vont par exemple au Japon, dans le groupe, il y a un japonais. Quand ils vont en Chine, il y a un chinois. C'est très très malin. Et ça contrôle même le fan club. Hein. Ça contrôle tout. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu de la chance, mais j'ai eu beaucoup de mal pour photographier ce groupe.
Alors, on va écouter quelques petites notes quand même, parce qu'il faut se rendre compte de ce que c'est.
Pour réussir dans la K-pop, c'est vraiment très exigeant. Il faut être jeune et très jolie. Il faut savoir chanter et danser. Et même avoir des talents d'actrice. Ce n'est pas facile du tout.
I trust you. Yeah, come on, boy. I'm bringing this house down. 언제 나 찾아올까? 어떤 모습을 사랑일까?
Voici comment se déroule une journée ordinaire du groupe Girls' Generation. Elles se réveillent, elles vont à la gym pour garder la forme pendant 2 heures, puis elles prennent un cours de chant, 2 heures. Elles déjeunent mais ne mangent que du blanc de poulet. Et puis elles prennent des cours de danse, de yoga et de gymnastique pendant 3 heures. Ensuite, comme elles doivent parler japonais, chinois et anglais, peut-être même français, elles prennent des cours de langue étrangère. C'est ça leur emploi du temps quotidien.
Effectivement, c'est pas d'un raffinement extrême. Mais en plus, Françoise Huguet, vous les avez, alors les jeunes filles de ce groupe, La Boom, vous les avez photographiées en exagérant un peu justement ce côté kitsch. Vous les avez fait poser avec des coloris un peu évoquant Versailles, avec des tasses de thé. Et vous avez eu du mal parce qu'ils disent que les Français, c'est pas sérieux. Ils n'avaient aucune envie de se...
On n'est pas sérieux du tout. Alors, quand on a voulu louer les lumières, on a voulu passer derrière la table pour vérifier les lumières. Ils ont dit non, 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 vous ne passez pas derrière la table. Puis d'ailleurs, votre passeport, non, non, on n'a pas confiance en nous. Mais comme ça s'appelait le petit macaron, je me suis influencée de Sofia Coppola dans Marie-Antoinette. Donc il a fallu que je leur explique qui était Marie-Antoinette. Et le plus dur, ça a été, comme c'était thé chez Marie-Antoinette, le plus dur, ça a été de leur montrer comment on prend une tasse, en levant le petit doigt. Parce que je vous dis, nous en France, on lève le petit doigt quand on prend une tasse. Et ça, j'ai eu un mal fou. Mais j'ai réussi.
Ce sont des photos assez extraordinaires qu'il faut bien voir dans votre livre, Françoise Huguier, Vitual Séoul.
I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to 4, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams to dry. A woman's born to weep and fret and stay at home to tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm moaning all the morning, morning all the night, and in between is nicotine and not much heart to fight. Coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come.
Retour dans le studio éphémère installé dans la galerie scène de la Maison de la Radio qui aujourd'hui fête le livre avec mes deux invités, Eliza Georgieva pour son livre « Les cosmonautes ne font que passer » et Françoise Huguier et son livre « Virtual Séoul ». Eliza Georgieva, il y a un personnage dans votre livre qui est très touchant, c'est le personnage du grand-père, parce que lui, lorsque le mur s'effondre, son monde s'effondre. C'est-à-dire que sa croyance communiste n'a jamais été entamée. Il a fait la guerre, ce sont ses rêves de jeunesse, c'est le sacrifice d'une vie. Il fait penser à ces personnages que Svetlana Alexievitch a interrogés pour son magnifique livre sur la fin de l'homme rouge. Il y a une génération pour laquelle la fin du communisme est juste inenvisageable. Et votre grand-père, dans ce livre, il s'accroche aux débris du passé.
C'est vrai que le passé et l'idée communiste, c'est un peu ce qui va quand même c'est ce pourquoi il vit. Et ça va, même si, même, alors même que tout s'effondre autour, et que on commence à voir la vérité, enfin, c'est-à-dire de, plein de faits qui vont être révélés en 89 par rapport au vrai, à la vraie politique de ce système totalitariste, même quand on va découvrir qu'il y a eu des camps, même quand on va découvrir toutes les atrocités, il y a quand même ce grand-père, mais toute une génération, comme vous dites, ou en tout cas une grande partie de cette génération, qui sera un peu perdue, puisqu'elle ne pourra pas accepter justement cet effondrement. Donc encore aujourd'hui, dans les rues de Sofia, vous pouvez voir des personnes plutôt âgées, qu'on appelle d'ailleurs très très ironiquement les mamies rouges, même si ce sont autant d'hommes que de femmes, qui continuent d'être communistes, bon, qui se revendiquent maintenant du PS, et qui voilà, sont toujours peut-être dans ce passé ou dans cet espoir qui reviendra.
Et Françoise Huguier, vous aussi, vous parlez, vous photographiez ces personnes âgées dont le monde s'est écroulé aussi d'une certaine manière, où la Corée d'autrefois dans laquelle ils ont été élevés n'existe plus, et on les retrouve en fin de matinée ou les après-midi dans des dancing qui s'appellent des colatech, où ils sont eux aussi très refaits par la chirurgie esthétique, habillés de manière incroyablement extravagante, et ils vont danser pour tromper quoi ? Pour tromper la solitude.
En fait, les colatech, c'est entre 75 et 95. Ça peut aller jusqu'à 100 ans, mais j'en ai pas trouvé. Et c'est pas cher. Donc c'est surtout des gens qui ont réussi quand même à avoir une petite retraite. Et donc, c'est pas du tout les intellectuels, parce qu'à chaque fois que je parlais de la colatech où j'avais été, et tout le monde rigolait. Mais pour ces gens, c'est très important, parce que quand les enfants sont élevés, souvent ça a été des mariages arrangés. Donc ils vont pas forcément avec leur femme, ils vont surtout pas avec leur femme. Donc ils viennent aussi, c'est un peu l'idée du balajo avant, c'est-à-dire que pour se trouver une lovers, c'est une compagne. Et donc on, c'est pas qu'on passe le temps. Alors il y en a certains qui disaient, on passe le temps, on est entre nous, parce que c'est vrai que alors. Toutes les femmes sont permanentées, contrairement aux jeunes qui ont les cheveux raides comme ici. Et elles font surtout du botox. Hein, elles. Et beaucoup de bijoux. Il faut montrer. Et c'est quand même la génération qui a construit la Corée, mais à la schlag. Hein. Ils le disent tous. Hein, on va pas dire 24 heures sur 24, mais presque. Hein. C'est moi, à chaque fois, je leur ai demandé un peu leur vie. C'est quand même, ça a été terrifiant.
Ils ont connu l'occupation japonaise.
Ils ont connu l'occupation japonaise, ils ont connu la guerre. Et qui a complètement détruit. Moi, j'ai vu les photos de Séoul après la guerre, c'était un bidonville, hein, c'était horrible. Ça a été horrible. En plus, il y en a certains qui m'expliquaient qu'ils venaient avec leurs parents, leur mère, sur le dos de leurs parents, qui venaient du nord, donc, et qui allaient jusqu'au sud. Parce que les communistes sont arrivés jusqu'au sud, hein, de la péninsule. Donc c'est des gens qui ont vu tout ça, quoi. Et donc à la maison, les enfants sont partis. Et ce qui est important, c'est d'aller effectuer. La musique, c'est pas la K-pop, c'est la trot music. C'est une musique qui est sirupeuse, à la japonaise, à l'asiatique. Et c'est pareil, c'est assez nostalgique. Et les vêtements, ils sont extrêmement bien habillés. Alors les vêtements, c'est des gens qui sont très influencés par les comédies américaines, comédies musicales américaines. Donc ils ont les chemises hawaïennes, mais alors c'est très sophistiqué, très, et c'est important.
Voilà, on a parlé un peu trop rapidement aujourd'hui, mais de façon, j'espère, passionnante, de la Bulgarie au moment de la chute du mur avec Eliza Georgieva, Les cosmonautes ne font que passer chez Vertical, et puis de ce virtual Séoul avec Françoise Huguier, c'est chez Actes Sud, et je rappelle que toutes les deux vont immédiatement aller s'asseoir à leur petite table pour dédicacer leur livre à tous ceux et toutes celles qui voudront aller les retrouver. Merci à mes deux invités, c'était un plaisir. Merci Françoise Huguier.
Merci
Eliza Georgieva. Et puis bon après-midi à tous les auditeurs qui sont là dans la Grande Galerie Seine. Et nous, ben, on se retrouvera dimanche prochain, mais bien sûr, France Inter, ça continue après les infos de 15h. Vous avez rendez-vous avec l'amie Fabienne Chauvière et ses aventuriers. Très bon dimanche à l'écoute de France Inter.